Bonjour à tous, chers frères et sœurs et amis qui nous rejoignez sur cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'être avec vous pour étudier à nouveau avec la parole de Dieu. Et notre étude nous conduit en Ésaïe chapitre 29, la série sur Ésaïe reprend. Et pour voir c'est le début de cette troisième grande section du livre d'Ésaïe que nous abordons aujourd'hui. Et cette section couvre les chapitres 28 à 39 du livre et il clôt aussi la première partie du livre. La question cruciale de cette section devant laquelle se trouve le roi de Juda, cette fois-ci c'est le roi Ézéchias, un bon roi, le fils d'Akaz, un mauvais roi. Et cette question est la suivante. Le royaume du sud, Jérusalem, doit-il faire alliance avec l'Égypte pour résister à l'invasion de l'armée assyrienne? Ou doit-il compter sur l'Éternel? Au fond, la question c'est, Dieu est-il digne de confiance? Ne sommes-nous pas aussi souvent tentés de rechercher le secours dans les hommes, notre sécurité dans nos finances ou notre espérance dans les stratégies humaines? Oh, la Bible, bien sûr, nous invite à la sagesse, à nous préparer à l'avenir, de sorte que souscrire à une assurance ne dénote pas un manque de confiance en Dieu. Et prendre des protections raisonnables dans nos sociétés modernes qui sont si complexes est certainement approuvé par le Seigneur. Mais nous devrions chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur nous encourage à nous inquiéter premièrement de notre relation avec lui aujourd'hui et d'agir selon la justice maintenant plutôt que de nous inquiéter de notre avenir sur lequel nous n'avons en réalité aucun contrôle. Et dans cette section, Ésaïe, le prophète, interpelle son peuple avec cette expression que l'on retrouve au début de chacun de ses six discours. Et l'expression, c'est « malheur ». Hein, chapitre 28, verset 1, « malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm wow. ». Chapitre 29, verset 1, « malheur à Ariel ». Chapitre 29, verset 15, « malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel ». Chapitre 30, « malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi ». Voilà encore quelques-uns de ces malheurs. Pourquoi est-ce que Dieu parle avec ces mots « malheur » Au fond, c'est comme pour dire « c'est un choix désastreux et avec de terribles conséquences que de ne pas se confier ». En l'Éternel. Je voudrais qu'on voit un peu tout ce chapitre. Et d'abord, on va découvrir dans les versets 1 à 8 une prophétie inouïe. Et je vous propose de regarder ça à présent. Le prophète annonce à Jérusalem, la cité de David, qu'il appelle ici Ariel. Ariel, c'est au fond un jeu de mots qu'il emploie, qui évoque le foyer de l'autel, c'est-à-dire la surface plane de l'autel sur laquelle le feu consumait les sacrifices. C'est à Jérusalem que se faisaient les sacrifices, dans le temple. Jérusalem, c'est le cœur de la vie religieuse du pays. C'est là où sont célébrées les fêtes de l'Éternel. Eh bien, Ésaïe annonce qu'elle va être assiégée par l'armée assyrienne. Elle sera comme une fournaise, c'est-à-dire littéralement, à la fin du verset 2, « et la ville sera pour moi comme un Ariel », c'est-à-dire une fournaise qui est enflammée, et que leur détresse sera telle que la ville sera comme morte. Regardez le verset 4. « Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. » C'est comme si déjà la ville est enterrée, morte et enterrée. Et il nous faut noter encore une fois que c'est l'Éternel qui est aux commandes. Hein, verset 2, c'est l'Éternel qui dit « Puis j'assiégerai Ariel » et au verset 3 « Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. » Ici c'est Dieu lui-même qui va allumer le feu sous le jugement de Jérusalem. le prophète Jérémie, dans son livre des Lamentations, chapitre 3, versets 37 et 38, il dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, ou le malheur et le bonheur ? Oui, c'est de l'Éternel que tout cela vient. » Et ici, Jérusalem est jugée à cause de son infidélité à l'Éternel, son rejet de son Dieu. Et puis, chose extraordinaire, verset 5, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et tout cela, et cela, tout à coup, en un instant. Ça, c'est une grosse surprise, une grosse prophétie d'une délivrance. Ce sont les ennemis, c'est-à-dire les envahisseurs qui vont mordre la poussière. Dieu compare l'armée assyrienne à une fine poussière, à la balle du grain qui s'envole au vent. L'Éternel souffle simplement et ses ennemis disparaissent. En une nuit, le siège de Jérusalem s'arrête et l'ennemi est dispersé. Comme dans un rêve, la chose que redoutaient les habitants de Jérusalem a disparu, comme si elle n'avait jamais été. Ça, c'est le verset 7. Et la proie que s'apprêtait à dévorer les Assyriens leur échappe, comme si tout était illusion. Regardez le verset 8. « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion, Jérusalem. » Et là encore, chose extraordinaire, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez le verset 6. « C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. » C'est précisément ce qui va arriver. Et c'est aussi ce que dévoile le récit historique des chapitres 36 et 37 du livre d'Ésaïe. Le peuple assyrien va fuir en une nuit et le siège et la délivrance de Jérusalem va s'opérer comme ça, simplement, sans combattre, simplement par la puissance de l'Éternel. Nous devrions placer en Dieu notre confiance parce que lui seul est au contrôle de l'avenir. Il domine sur les nations. Il domine sur les tremblements de terre et sur les ouragans. Lui seul est un appui qui ne nous décevra pas. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Et pourtant, il y a une réaction hallucinante, c'est mon deuxième point ici, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 16. Une réaction qui provoque la stupéfaction, l'étonnement du prophète Ésaïe, c'est que la révélation du profond abaissement et le relèvement miraculeux de la ville de David ne produit rien dans leur cœur. Ça ne produit pas de repentance, ça ne produit pas de reconnaissance, pas de confiance, pas d'obéissance. Verset 11, le prophète dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. » Ils ne comprennent rien. Ils rejettent le message d'Ésaïe, ils ne peuvent saisir la vérité parce qu'elle n'entre pas dans leur concept. Leurs cœurs sont éloignés de Dieu, à un tel point que les plus belles prophéties, les prophéties les plus inouïes, ne touchent pas leur cœur. Avez-vous l'impression que c'est un peu ce que vous vivez ? Que le message de la Bible reste obscur pour vous, que la volonté de Dieu, vous n'arrivez pas à la saisir, que vous comprenez pas Dieu, ce qu'il fait. Vous savez, le problème ne vient pas du message. Il ne vient pas non plus de Dieu qui nous transmet le message. Mais le problème vient de nous, qui ne pouvons pas le recevoir. Et le problème, ce n'est pas un problème dans l'émission ni dans la transmission, mais dans la réception. Et la réception, elle s'opère avec le cœur. C'est donc l'attitude de notre cœur qui nous rend réceptifs ou non à la parole de Dieu. Et Ésaïe, il va dénoncer ici trois mauvaises attitudes de cœur qui nous empêchent de capter le message, de comprendre ce que fait Dieu et sa volonté. Regardez. Verset 13 tout d'abord, il dénonce une attitude hypocrite. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Le ritualisme, vide de sens, ne saurait procurer aucunement la moindre intimité avec Dieu. Ce verset est cité par Jésus lui-même à l'adresse des pharisiens de son époque, dans les évangiles de Matthieu et de Marc. C'est-à-dire, les pharisiens, c'était des hommes religieux. Ils sont préoccupés par bien réciter leurs prières, plus que par ce qu'ils disent et l'attitude de leur cœur. Ce sont des professionnels de la religion, des sacrifices. Ils savent quoi offrir, quand, où, comment l'offrir, mais ils ne se préoccupent pas du pourquoi. Nous pouvons nous aussi avoir une attitude similaire. Parce que nous avons effectué certaines activités religieuses, nous croyons que Dieu doit nécessairement faire notre volonté. Nous avons prié longtemps et avec ferveur. Aussi, Dieu doit guérir notre enfant. Nous sommes allés à l'église tous les dimanches pendant des mois. Par conséquent, Dieu doit nous donner un bon travail. J'ai prié, j'ai lu la Bible tous les jours pendant des semaines. Par conséquent, Dieu doit restaurer mon couple. Mais ce ne sont pas des actes d'adoration en réalité. Ce sont de basses tentatives de manipuler Dieu. En réalité, nous ne voulons pas de Dieu avec une telle attitude de cœur. Nous ne voulons pas de Dieu dans nos vies, nous voulons ce qu'il peut faire pour nous. Dieu n'est pas très attiré par les sacrifices. Il dit dans le psaume 51, verset 17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Nous les hommes, nous sommes profondément religieux. Et quand nous nous présentons devant Dieu, nous voulons faire bonne figure. Alors, nous adoptons la posture qui va bien. Nous nous rassurons dans une genouflexion, dans un ton solennel, un cierge qui brûle, une prière que l'on récite. Mais la vérité, c'est que nos cœurs peuvent être éloignés de lui tout en pratiquant ces choses. Dieu sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il n'est pas impressionné par nos rites. Dieu veut que l'on tombe le masque et que l'on soit sincère devant lui. Sinon, nous n'entendrons pas sa voix. Si vous saviez que la personne que vous avez en face de vous se fout royalement de ce que vous allez lui dire. Oh, elle semble très attentive, mais au fond, elle ne fera que ce qu'elle veut. Si vous saviez lire dans son cœur, est-ce que vous perdriez votre temps à lui parler? Dieu, il connaît l'attitude de nos cœurs. Alors, ne nous moquons pas de lui. Ne jouons pas la comédie. La deuxième attitude fausse qu'il dénonce, ou mauvaise attitude, c'est justement une attitude fausse. Regardez verset 15. Il dit « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Le prophète ici, il fait certainement allusion aux tractations secrètes que les chefs de Jérusalem avaient engagées avec l'Égypte pour combattre les Assyriens. Le Seigneur, il leur avait recommandé de ne pas se risquer à ce jeu-là. Mais comme ils veulent quand même le faire, ils cherchent à lui cacher leur stratégie. Mais soyons sérieux. Croyons-nous que Dieu ne voit qu'en plein jour? Hébreux 4, 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Qui s'imagine pouvoir faire quelque chose à l'insu de Dieu, comme si Dieu ne voyait pas, ne savait pas? Dieu remplit le ciel et la terre. Il voit dans le secret, il sonde les cœurs. Il connaît nos motivations, nos pensées. N'est-ce pas méprisant envers lui de faire comme s'il était ignorant et aveugle? Pourquoi Dieu parlerait-il à une telle personne? Pour entendre Dieu et le comprendre, on doit avoir un cœur honnête devant lui. Si nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous devrions la lire avec l'intention d'y obéir, de nous y soumettre. La troisième attitude, mauvaise attitude que Ésaïe dénonce ici, c'est une attitude hautaine. Une attitude qui ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu. Ésaïe s'exclame au verset 16, « Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. » Voilà une attitude qui empêche la compréhension de ce que Dieu fait. C'est l'attitude que l'on peut avoir lorsqu'on accuse Dieu, que l'on prétend savoir mieux que lui ce qu'il est censé faire ou ne pas faire. Comme si c'était nous qui l'avions fait et non le contraire. Vous avez déjà entendu, ou peut-être vous avez dit ou pensé, « Eh bien, Dieu s'est bien trompé cette fois. Il n'a rien compris, il n'a rien vu. Hein. Il ne comprend pas ce que je vis, il ne réalise pas ma situation. » Comme si nous savions et que lui ne comprenait rien, ne savait rien, ne maîtrisait rien. Nous prenons Dieu un peu comme le génie de la lampe qui doit accomplir notre volonté. On frotte et il obéit. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il a une volonté propre. Le Dieu de la Bible, il fait tout à merveille. Dans l'éternité, tout le monde chante en son honneur. Il n'y a personne qui dise pourquoi. Parce que toutes les souffrances traversées ici-bas trouvent une parfaite explication, une parfaite justification. Tous les cœurs sont apaisés. Pour apprendre quelque chose de quelqu'un, il nous faut considérer le professeur comme sachant mieux que nous, sinon nous ne l'écoutons pas. Du coup, si vous pensez savoir mieux que Dieu, Dieu ne se révèle pas. Mais lorsqu'on s'assoit à ses pieds et que l'on écoute, il parle. Alors, prenons notre place de créature. Prêtons attention à sa parole. Dans des situations difficiles qui engendrent des souffrances, nos cœurs vacillent parfois. Et on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Et pourquoi, Seigneur? C'est une question légitime. Mais la réponse ne viendra que si nous avons la bonne attitude de cœur devant Dieu. Je m'explique. Je peux dire, mais pourquoi? Comme si j'étais juge et que je faisais venir Dieu à la barre depuis le box des accusés, le sommant de me donner des explications. Dans ce cas, je n'aurais pas de réponse, parce que Dieu n'est pas dans le box des accusés. Mais je peux également dire, mais pourquoi, Seigneur? En m'adressant au juste juge, reconnaissant que je n'ai pas connaissance de toute chose, et m'attendant à ce qu'il me révèle quelques aspects de sa volonté qui pourront m'éclairer. De toute façon, dans mon cœur, je sais que sa bonté, sa sagesse et sa justice sont établies pour toujours. Sinon, il ne serait pas Dieu. À ces trois mauvaises attitudes de cœur s'ajoute un jugement de Dieu qui nous empêche de saisir sa parole. Regardez le verset 10. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. » C'est comme, et ça c'est certainement la pire des situations que l'on puisse connaître. C'est comme si Dieu nous abandonne à nos propres cœurs. Ici, Dieu a abandonné son peuple à la dureté de son cœur dans laquelle il se complaisait. C'est comme si Dieu leur disait, Ah, vous fermez votre cœur à la parole de Dieu. Vous conservez votre attitude hypocrite, fausse et hautaine devant moi. Eh bien, soit gardez vos illusions. Je vous livre à votre aveuglement. Toute votre prétendue sagesse est une folie qui vous conduira au final à une ruine complète. C'est pourquoi, dit Dieu au verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Vous pensiez sage de vous confier dans l'Égypte, mais aux yeux de Dieu, c'est de la rébellion. Vous avez refusé de croire en moi et dans mon secours. C'est pourquoi je vais faire échouer votre politique. Aussi montrer que toute votre sagesse, en fait, c'est que de la folie. Certains commentateurs y voient la prophétie de l'invasion babylonienne. Mais l'accomplissement ultime, où Dieu réduit à néant la sagesse et l'intelligence des hommes, c'est à la croix. Et ça, c'est mon troisième point. Une promesse merveilleuse. C'est lorsque Paul évoque la folie de l'Évangile dans le Nouveau Testament qu'il cite Ésaïe 29, verset 14. Laissez-moi vous lire quelques versets dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, voilà la citation de Ésaïe 29, verset 14, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu a-t-il convaincu? N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Oh, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu a décidé que les hommes ne parviendraient pas à le connaître par le moyen de la sagesse humaine. Autrement, l'homme s'exalterait lui-même et des gens simples comme moi n'auraient jamais eu accès à Dieu pour être sauvés. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi de sauver les pécheurs par la prédication de l'Évangile. Un message si simple que les sages de ce monde l'ont méprisé comme une absurdité. Et pourtant, c'était le message pour leur salut. Des hommes sont des pécheurs. Leur péché mérite la mort. Aussi Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix à leur place. De sorte qu'il puisse les accueillir pour toujours dans sa présence. Et il en a donné la preuve en le ressuscitant des morts. Oh, pour certains, c'est une folie. Une folie pour ceux qui refusent d'y croire et qui périssent. Mais pour les autres, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour ceux qui y croient et qui sont sauvés. Si vous ne recevez pas ce message, ne serait-ce pas la preuve que vos cœurs sont encore endurcis? Vous rejetez Dieu, mais pourtant vous le tenez coupable lorsqu'une catastrophe arrive. Vous agissez comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne jugeait pas. Vous vous pensez sage pour savoir mieux que Dieu, comme si l'argile savait mieux que le potier? Si c'est votre cas, mes amis, reconnaissez votre folie et la dureté de votre cœur et confiez-vous en Dieu et dans l'œuvre de Christ et vous vivrez. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme souvent dans le livre d'Ésaïe, lorsque Dieu parle de jugement, il soulève aussi à un moment le voile sur l'avenir et le règne de Jésus-Christ. Il montre que l'aveuglement spirituel, et ça c'est cette partie-là, c'est les versets 17 à 24 du chapitre. Il montre que l'aveuglement spirituel prendra fin. Regardez le verset 18. « En ce jour-là, Les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Avant cela, il disait, les sages, les prétendus sages, religieux, les scribes et tout ça, ils ne comprennent rien au livre. Le livre est comme scellé, fermé. Mais quand on se confie en Dieu, les yeux s'ouvrent et on commence à comprendre. Ici, même les aveugles et les sourds entendent et comprennent le message. Et puis regardez encore, verset 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Je trouve tellement une telle consolation dans ce verset. Lorsqu'on se confie en Dieu, on trouve la consolation, on trouve le sens. Et là, on trouve la consolation à toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, et on commence vraiment à se réjouir. Jésus, il applique ces versets à son ministère en Matthieu chapitre 11, verset 5. Le contexte, c'est lorsque Jean-Baptiste est emprisonné et il s'interroge, il ne sait plus où est-ce qu'il en est. Est-ce que Jésus est bien celui qui doit venir? Est-ce qu'il est bien le Messie, celui qu'on attend? Et Jésus envoie ses disciples vers Jean et leur demande de simplement lui dire ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors crois, Jean, crois. Voyez-vous, quand Jésus entre dans une vie, quand il établit son règne dans nos cœurs, les aveugles voient. Et les malheureux se réjouissent. Je ne sais pas si vous hésitez encore à placer votre confiance en Dieu, mais je vous en supplie, laissez-le régner sur vos cœurs. Et vous allez voir, et vous allez vous réjouir. Oh, combien il est digne de toute votre confiance. Il est le seul sage. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Soyez-en certains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier parce que tu es entièrement digne de notre confiance. Tu connais toutes choses. Tu es le Dieu infiniment sage. Tu es celui qui nous a créés et qui nous aime. Tu sais aussi, Seigneur, la dureté de nos cœurs, l'hypocrisie, la fausseté, le caractère hautain de nos cœurs qui te jugent, nous des créatures, nous l'argile. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans notre endurcissement, dans nos ténèbres. Mais tu t'es révélé à la croix dans un message tellement simple que n'importe lequel d'entre nous peut le comprendre et se confier en lui. Seigneur, on te prie pour que tu transformes nos cœurs. À la croix, tu as confondu, Seigneur, les sages, les puissants. Le message de la croix, c'est un message simple, qui confond l'intelligence des intelligents. Qui regardait ce message comme une folie. À la croix, tu confonds la force d'effort qui pensait que c'était faiblesse que de voir le Fils de Dieu crucifié. Et pourtant, c'était la manifestation de ta puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, merci pour un tel message. Merci parce que toi seul, tu peux apporter la compréhension à nos cœurs. Toi seul, tu peux apporter la consolation et la joie à toutes les souffrances que les uns et les autres peuvent connaître. Seigneur, on te prie d'agir dans les cœurs et d'attirer chaque cœur à toi. Tout cela pour la gloire de ton nom. Amen.